Les attentats du 11 septembre 2001 ont été, si vous voulez, une rupture à la fois quantitative et qualitative. C'était une rupture quantitative de par le nombre de morts, ça c'est assez évident, et ça s'est traduit également par une rupture qualitative, parce que pour la première fois, un acteur non étatique a été capable d'infliger instantanément des dégâts d'ordre militaire à un acteur étatique. Alors, bien sûr, cette rupture a engendré une réaction à la hauteur de l'événement, et cette réaction a été l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, menée par les États-Unis avec une coalition internationale. Très concrètement, cette opération Enduring Freedom a eu un effet assez efficace en matière de lutte contre le terrorisme direct, c'est-à-dire en matière de destruction des camps d'entraînement djihadistes qui se trouvaient en Afghanistan et en matière de neutralisation des combattants dans le pays.
Est-ce que le terrorisme, lui, a évolué ?
Oui, c'est-à-dire que l'opération Enduring Freedom donc, a été un coup très dur pour la mouvance Al-Qaïda et a en fait obligé cette mouvance djihadiste à évoluer. Et donc cette mouvance s'est décentralisée au Maghreb avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Irak avec Al-Qaïda au pays des deux fleuves. L'ouverture donc d'Al-Qaïda au pays des deux fleuves ayant fait suite bien sûr à l'opération essentiellement américaine menée dans le pays.
Aujourd'hui, il y a un débat important entre les tenants de la décentralisation d'Al-Qaïda comme Mark Sagemann et puis les autres, notamment le professeur Bruce Hoffman, sur la nature d'Al-Qaïda.
Mark Sagemann explique en fait que depuis 2001, la mouvance a beaucoup évolué, même avec l'apparition de ce qu'on appelle généralement les « home ground terrorists », c'est-à-dire des terroristes, pour faire simple, « made in West », qui se radicalisent dans les pays, notamment d'Europe occidentale, qui s'appuient très largement d'ailleurs sur Internet. Il y a également des manuels pour confectionner des explosifs qui sont disponibles sur Internet. Il est possible pour les djihadistes de recruter, de lever des fonds, d'échanger des conseils tactiques et stratégique. Bruce Hoffman, quant à lui, dit que la menace essentielle reste ce qu'il appelle le bureau central d'Al-Qaïda. Donc pour faire simple, les Ben Laden, Zawahiri et consorts. Et pour lui, cette menace se concentre dans une zone géographique qui est l'Afghanistan et puis de plus en plus le Pakistan. Si on considère effectivement que la centralisation est réelle, à ce moment-là, il faut mettre l'accent sur l'option militaire. Par contre, si on considère que les terroristes sont susceptibles de se radicaliser en Europe occidentale, devant leur ordinateur ou en se rencontrant en petits groupes dans des lieux donnés, à ce moment-là, l'option favorisée dans la lutte contre le terrorisme sera l'option policière et judiciaire, également avec un rôle important des services de renseignement intérieur.
Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes puissances ont la même approche quant à la façon de lutter contre le terrorisme ?
Alors historiquement, en fait, si vous voulez, il y avait deux modèles. Un modèle américain qui mettait l'accent sur l'option militaire, alors que le modèle plus soft, le modèle français, mettait l'accent sur l'option policière, judiciaire et puis sur le rôle des services de renseignement interne. Alors ceci est très caricatural et puis ça a quand même évolué depuis 2001, avec une sorte de convergence de ces deux modèles. Les Français ont de plus en plus utilisé les militaires pour lutter contre le terrorisme, en envoyant notamment des troupes en Afghanistan. Et puis les Américains, de leur côté, sont aussi rendus compte que la police, la justice, les services de renseignement intérieur pouvaient jouer un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme.